Europe 1. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit.
Voilà, cette chanson de Jean Ferrat, Je ne suis qu'un cri, c'est vous-même qui l'avez choisi à ma place. Hein. Vous l'évoquez dans l'introduction de votre livre, c'est votre manière de dire que cette histoire n'est pas anodine, que vous la racontez dans une infinie douleur.
Oui, exactement. Et c'est aussi une manière de faire comprendre à ceux qui entendront cette histoire, à ceux qui la liront, qui vont être heurtés, mais que j'aurais voulu ne jamais avoir à les heurter. C'est aussi cette façon-là de m'expliquer, de dire oui, vous allez être choqués, oui.
Je veux vous donner à l'issue de ce récit la possibilité, de compléter, de rectifier, de préciser peut-être un point que j'aurais mal compris, que j'aurais sous-évalué, surévalué, sur lequel je n'aurais pas assez insisté au fond, même si j'espère vous avoir été complètement fidèle.
Oui, vraiment, oui. Là, je n'ai rien à ajouter parce que c'est vraiment...
Ça traduit,
voilà, exactement, ainsi que mon état d'esprit aussi. Donc oui, c'est vraiment fidèle, oui.
Pourquoi est-ce que vous avez voulu raconter coûte que coûte ? Parce que il peut y avoir là un malentendu. Vous n'avez pas attendu la prescription de votre crime, car il s'agit d'un crime, pour raconter votre histoire. Vous le dites dans le livre, vous avez voulu la raconter dès le lendemain.
Oui, oui, j'ai voulu la raconter tout de suite. Mais
le médecin
m'a dissuadé. Et il m'a dit que j'avais un enfant à élever, et qu'il avait un an et qu'il ne fallait pas le priver de sa mêre.
Ouais. Vous étiez prêt à aller en prison.
Ah oui. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi, enfin que c'est moi qui ai agi. Parce que je sais que il est fort possible que si j'avais, comme on était d'accord mon mari et moi, que mon mari l'aurait certainement fait. Mais mon mari travaillait, il fallait qu'il s'occupe de Hugo. Moi, je ne m'occupais que de Frédéric. Donc il fallait qu'il y ait quelqu'un pour pouvoir s'occuper du bébé, si le cas échéant. Donc c'est pour ça que j'ai choisi, moi, de prendre cette responsabilité. Et en plus, parce que c'est moi qui l'avais mise au monde. C'était moi qui l'avais portée.
On va revenir là-dessus tout à l'heure. 10 ans après, vous allez voir un éditeur, vous lui dites, j'ai un texte, je veux l'éditer.
Oui.
Et une fois de plus, il vous dit, c'est trop tôt.
Oui, oui, j'ai commencé à écrire cette histoire en 91. Et le temps de l'écrire, le temps de chercher un éditeur, oui, puis j'ai trouvé un éditeur qui m'a demandé de venir à Paris, et nous avons déjeuné, nous avons discuté, parce qu'il était prêt à publier ce livre, j'avais deux enfants, donc Hugo et puis sa petite sœur Victoria, qui avait 3 ans, et il m'a dit non, moi je ne peux pas, je ne suis pas prêt, parce que en discutant avec vous, je vois que vous avez des enfants bas âge, et moi
faut
je
plus vous protéger.
Voilà. Et il m'a dit, vous êtes naïve, je vous mets sur une trappe et vous voulez que moi j'ouvre pour vous faire tomber dedans.
Ouais.
J'ouvre la trappe. Il a dit non, je ne peux pas.
Il avait raison.
Alors, je pense que il avait raison dans la mesure où ça m'a permis d'élever mes enfants, d'être là. Mais je pense aussi que il l'a fait en son âme et conscience. Parce qu'il ne voulait pas avoir la responsabilité de priver deux enfants de leur mère.
Et ça vous permet aujourd'hui de faire toute cette démarche avec vos enfants.
Oui.
Votre fils,
voilà.
Hugo, est là derrière la vitre.
Voilà. Et mes enfants, dès qu'ils ont été assez grands, bon, pas quand ils avaient 6-7 ans, mais...
Vers quel âge ?
Vers le 12 ans, 13 ans, je leur ai expliqué. Et ça n'a jamais été un tabou à la maison, je leur ai expliqué. Et ce qui m'a vraiment fait du bien, c'est que unanimement, ils m'ont dit « Mais maman, tu as fait le bon choix. Si ça avait été nous, on aurait voulu que tu fasses la même chose. » Et ça a été vraiment d'un grand réconfort pour moi.
Vous savez sans doute que le procureur de la République de Toulouse, où vous avez vécu ces dernières années, réfléchit à l'hypothèse d'ouvrir une procédure contre vous pour assassinat. Il s'interroge pour savoir si les faits sont prescrits ou pas. C'est extrêmement complexe en France. Normalement, les crimes sont prescrits au bout de 30 ans. Là, il s'agit de 30 ans au-delà de la majorité hypothétique de Frédéric. Bref, il réfléchit. C'est un risque que vous assumez aujourd'hui.
Ah oui, je l'assume. De toute façon, je l'aurai toujours à assumer. Parce que à partir du moment où j'ai fait ce choix, je n'ai pas fait le choix de me taire. Donc oui, je l'assume. Je n'ai pas regardé s'il y avait une prescription ou pas de prescription. puisque en 94, si l'éditeur m'avait dit oui, il serait sorti en 94.
Ouais. Et là, vous étiez bonne pour la cour d'assises.
Oui.
Ouais. Oui. Vous assumiez ça.
Oui.
Vous
oui,
le souhaitiez peut-être.
Mais,
pour pouvoir
je sais
dire
pas.
Des choses, être voilà. jugé sur ce que vous avez fait. Et hypothèse, voilà. vous auriez été acquitté, c'est une hypothèse, mais un jury populaire.
Parce que de toute façon, ça n'est pas parce que je me moque de la loi, parce que mes parents m'ont élevé dans le grand respect des lois. Mais là, dans mon esprit, c'était, mais vraiment, il n'y avait aucune commune mesure entre la loi et délivrer mon enfant de ce carcan, de cette vie qui n'en était pas une, le sortir, le libérer de cette, je dis, cette antichambre de la mort, parce que pour moi, il ne pouvait qu'attendre la mort là où il était. Donc pour moi, c'est une délivrance pour lui.
Alors je voudrais qu'on revienne presque aux premières contractions, parce que dès les premières contractions, on a l'impression que vous sentez qu'il va y avoir un problème. Et il n'y a rien de rationnel là-dedans.
Non.
C'est donc la manifestation du fameux instinct maternel.
Alors je ne sais pas si c'est l'instinct maternel, mais c'est vrai que pendant les contractions, je vois qu'il ne bouge pas. Je sens qu'il ne bouge pas, que j'ai des contractions, mais que...
C'est votre première, vous ne savez pas comment ça marche d'habitude.
Non, je ne sais pas. Je me dis que quand même, pour qu'il naisse, il faut bien qu'il bouge à un moment donné. Et moi, j'avais toujours l'impression d'avoir en haut, sur mon ventre, les contractions. Il y avait des contractions, mais il y avait... Il bougeait pas du tout. Donc j'avais l'impression que, au bout d'un moment, qu'il s'épuisait sans bouger d'un centimètre. Donc c'était vraiment très très angoissant.
Et on retrouve cette intuition quand vous rentrez à la maison, quand vous dites j'ai l'intuition d'un chaos. Là non plus, vous n'avez aucun élément
non, mais
pratique.
C'est... Non, je n'ai pas d'élément. Mais à partir d'un certain moment, j'ai senti qu'il ne bougeait plus avant de naître. Et qu'il n'y avait plus de contractions, il bougeait plus. Et alors je me suis dit, c'est pas possible.
Il
est mort, ou il est. Mmh. Ouais, donc il est en train de mourir. Il est mort. Enfin, donc oui, là aussi, là j'ai senti. C'est pour ça aussi que je me disais, ça n'est pas possible, qu'il n'ait pas de séquelles importantes, parce que pour moi, j'avais senti ce moment-là.
Vous avez senti le moment où en fait il.
Oui. J'avais senti le moment
il renonce.
Oui, pour moi, c'était à partir du moment où il n'y avait plus aucun mouvement, c'est qu'il avait renoncé, qu'il ne pouvait plus, qu'il était allé au bout de ses limites.
Votre raisonnement, c'est que la clinique ayant commis une faute dans la surveillance de votre accouchement, passe le bébé, c'est le cas de le dire, à un hôpital, et vous fait signer un papier au passage, signer à votre mari un passage, pour se laver les mains du problème.
Oui,
c'est ça.
C'est mon sentiment. C'est mon sentiment parce que, d'ailleurs, conforté par l'avis de notre vieux médecin qui nous a dit, mais moi, ça serait arrivé si ce médecin avait pris ses responsabilités. Il vous aurait dit qu'il était mort. Mais là, une mort à la clinique, et puis ça aurait voulu dire que peut-être nous, on aurait posé des questions. Pourquoi il est mort?
C'était la réputation de la clinique?
C'était certainement la réputation de la clinique.
Vous dites l'aura sociale dans votre livre.
Oui, l'aura sociale. Et puis parce que vous avez... Enfin, il y a des médecins qui vont aussi à droite, à gauche, qui sont surbookés, ils font tout sauf de la médecine, ils font tout sauf être avec leurs patients. Et j'ai eu l'impression que c'était ça. Parce que le temps que nous apprenions que notre fils était dans cet état, il s'est passé du temps. Donc lui, il était débarrassé, en fait, quelque part.
C'était le sujet de l'hôpital, c'était plus celui de la clinique.
Voilà, c'était l'hôpital.
Et après, l'hôpital, qui sans doute a parfaitement conscience de s'être acharné à le maintenir en vie, vous ment sur les séquelles.
Ah,
il vous ment.
Ah oui, oui.
Le professeur vous ment.
Voilà. On nous dit oui, mais vous êtes toujours dans les livres, vous ne savez. Mais je dis oui, mais moi j'ai senti ce moment. J'ai senti quand il ne respirait plus. C'est pas possible qu'il n'y ait rien. Mais il faut attendre, il faut attendre. Enfin, c'était vraiment on avait l'impression d'être baladé, que nous étions pas des cas d'études, mais presque quoi.
Votre mari. Dans toute cette histoire, vous le faites exister dans votre livre.
Oui.
Et puis de temps en temps, il disparaît totalement.
Oui.
Et évidemment, au moment de la mort de Frédéric, il n'est pas là. On est un peu surpris de ça. On se dit que ça aurait été un geste à faire à deux.
Oui, mais justement, là, je reviens sur ce point-là. C'est que j'avais conscience de transgresser une loi. J'avais conscience que on ne pouvait pas... parce que moi, je voulais parler, je voulais dire Voilà, j'ai choisi ça pour mon fils. Je lui ai donné la mort. Et on ne pouvait pas le faire tous les deux. Nous aurait pris Hugo, on l'aurait placé, qu'est-ce qu'on aurait fait? Donc, pour moi, il était important que ce soit moi et moi seule qui reste au moins un parent. Un parent debout, un parent en état de protéger notre fils.
Mais on sent tout de même que c'est plus votre affaire de mère.
Oui, aussi.
Que son affaire de père.
Oui, oui. Parce que pour moi, c'était moi qui l'avais mis au monde, donc c'était ma responsabilité. Et je devais ça à Frédéric. Même s'il ne comprenait pas, même c'était moi. Si quelqu'un pouvait agir ainsi, ça ne pouvait être que moi. Parce que je pense qu'il n'y avait que cet amour-là qui pouvait lui apporter cette délivrance. Que mon amour-là.
Y a vraiment un passage qui est très fort, c'est que, est-ce que c'est votre père qui vous amène sur la voie de cette solution, lui donner la mort? Ou est-ce que vous y avez pensé avant?
Alors, déjà, faut que je parle, dans ce cas, il faut que je parle aussi de mon éducation. Parce que notre père nous a élevés, mon frère et moi, dans l'idée que la vie était importante, qu'elle était précieuse. Et que...
Vous dites que c'est un humaniste, mon père.
Oui, oui. Parce que il a vécu la guerre d'Espagne, son père journaliste a été fusillé sous ses yeux quand il avait 13 ans, parce qu'il faisait des journaux clandestins contre Franco. Donc une nuit, les militaires l'ont sorti du lit, l'ont mis contre la maison et l'ont fusillé. Et mon père a fui Franco, justement. Il fait partie des réfugiés espagnols. Et mon père savait ce qu'était la vie, il savait ce qu'était lutter pour vivre. Et il nous a toujours dit... Il y a une dignité. Il y a une dignité dans la vie et on ne peut pas vivre à tout prix. Il faut vraiment faire très attention. Et il nous a souvent dit, à mon frère et à moi, si un jour il m'arrive quelque chose, que j'ai un accident, que quoi que ce soit, surtout, si vous m'aimez, ne me laissez pas vivre. Faites-moi partir. Et ça, il nous l'avait déjà demandé à plusieurs reprises.
Est-ce que ça veut dire que donc vous y pensez avant lui, à mettre un terme au jour de Frédéric?
Alors...
Beaucoup de parents, je vous rassure, d'enfants handicapés ou lourdement handicapés,
oui, oui.
ont cette idée qui leur traverse
oui.
la tête. Rares sont ceux qui vous diront ça. J'y ai jamais pensé.
J'y ai pensé, mais je voulais me raccrocher à ce que mon mari me disait, parce que lui était plus optimiste que moi. Et alors, je me disais, mais non... Je m'en moque qu'il marche à 3 ans, ou qu'il fasse des progrès qu'à 3 ans, qu'à 4 ans, mais c'est pas grave. Et ça m'a effleuré, mais ça m'a effleuré.
Quand? Juste après la naissance?
Non, ça m'a effleuré au fur et à mesure que nous faisions
les démarches.
Les démarches. Et là, ça, c'était pas la même chose, parce qu'en fait, pour moi, avant que nous ayons Hugo, c'était plutôt qu'on parte ensemble tous. Enfin,
l'idée d'un suicide collectif
voilà,
vous a traversé l'esprit.
Je me souviens que parfois, quand nous partions chez mes parents pour nous reposer un petit peu, je me souviens d'avoir dit à mon mari, lâche le volant, qu'on parte, quoi. Donc, ce qui m'a effleuré à ce moment-là, c'était plutôt qu'on parte ensemble. Et chaque fois, mon mari me disait « Non, on n'a pas encore le résultat là. Laissons-nous un peu de chance. Laissons-nous encore une chance. »
Ça a compté, le soutien symbolique de votre père, au-delà de sa mort?
Oui, ça a compté parce que j'ai compris que lui ne lâchait pas prise. Il ne lâchait jamais prise tant qu'il y avait un espoir. Mon père adorait Frédéric. Et je me suis dit aussi, là j'ai commencé aussi à comprendre que l'espoir, il n'y en aurait certainement pas. Parce que, pour qu'il me dise cela, c'est qu'il avait vraiment compris ou senti ou envisagé vraiment qu'on n'aurait plus d'espoir. Et pour moi, qu'il veuille faire ce sacrifice, c'était vraiment émouvant.
Je vous remercie beaucoup, Anne Ratier, de m'avoir confié votre histoire, de m'avoir autorisé à la raconter au jeu, de vous prêter ma voix. Votre livre, je le rappelle, vient de sortir aux éditions City. Il s'appelle « J'ai offert la mort à mon fils ». C'est un témoignage bouleversant que je conseille vraiment à tout le monde. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.